Mes frères et sœurs, quel plaisir de commencer cette diffusion de la réunion de formation mondiale des dirigeants en vous faisant part de quelques réflexions au sujet de la version révisée des manuels de l'Église. Chaque fois que le sujet du manuel d'instruction est abordé, je me souviens d'une expérience que j'ai eue dans les années 70, alors que j'étais responsable de l'œuvre de l'Église pour ce que nous appelions l'Allemagne de l'Est ou la République démocratique allemande. Le gouvernement de l'Allemagne de l'Est ne permettait pas que de la documentation de l'Église soit apportée dans le pays. Alors le président Kimball m'a demandé de mémoriser la nouvelle édition de ce que nous appelions alors le manuel d'instruction générale de l'Église pour passer la frontière de l'Allemagne de l'Est, puis de dactylographier le manuel pour les dirigeants fidèles de l'Église qui vivaient là-bas. Bien qu'il eût été impossible pour quiconque de mémoriser le livre entier, je l'ai étudié à fond. Et j'en ai appris les concepts de A à Z. Je me suis rendu en Allemagne de l'Est et sur place, j'ai demandé aux dirigeants de l'Église de me fournir un bureau, une machine à écrire et une rame de papier. J'ai commencé à taper la machine. Une ou deux heures et de nombreuses pages plus tard, je me suis levé pour m'étirer. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce et j'ai remarqué, sur une étagère derrière moi, un exemplaire de la nouvelle édition du manuel d'instruction générale en langue allemande. Quelqu'un avait évidemment traversé clandestinement la frontière avec le manuel. Depuis ce temps, je connais bien le contenu de ce livre. Au mois de juillet 2010, la population totale de l'Église a dépassé les 14 millions. Le nombre de membres de l'Église a augmenté depuis son organisation en 1830. Et il continuera de croître avec des milliers d'unités dans le monde entier. Il serait presque impossible de maintenir l'intégrité des règles, des modalités et des programmes de l'Église sans ces manuels qui sont partout à la disposition des dirigeants de l'Église dans toutes les langues que vous représentez. Et ils seront une ressource inestimable pour vous. Ils ont été lus et relus, corrigés et relus. La plupart d'entre vous ont leurs exemplaires. Lisez-les. Comprenez leur contenu. Suivez-les. Lorsqu'en tant que membre de la première présidence, nous nous retrouvons chaque jour pour notre réunion habituelle, nous devons, de toute nécessité, traiter et corriger les erreurs administratives commises par les dirigeants de l'Église. La plupart de ces erreurs auraient pu être évitées si les dirigeants en question connaissaient bien le manuel et s'ils avaient appliqué les règles et modalités qui sont indiquées. Au cours de ces dernières années, le bureau de la première présidence a reçu des centaines de demandes d'approbation d'actes illégitimes. Les demandes d'annulation d'ordonnances qui ont été mal accomplies, quoique moins nombreuses, se chiffrent aussi par centaines. Un domaine dans lequel se produisent fréquemment des erreurs est celui des commissions disciplinaires. Il y a en fait deux sortes de commissions. La commission disciplinaire de paroisse ou de branche et la commission disciplinaire de pieux. Chacune a une fonction différente. Et si l'on reste dans les limites de ces fonctions assez spécifiques, tout ira bien. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui se produit. À titre d'exemple, il est arrivé que des commissions d'évêques excommunient les anciens, alors qu'en réalité, les détenteurs de la prêtrise de Melchisédek dépendent de la commission disciplinaire de pieux. Si les procédures ne sont pas correctement suivies, alors nous, la première présidence, devons ratifier la mesure ou la faire refaire. Si nous ne connaissons pas bien les règles et les modalités, des aberrations peuvent se glisser dans les programmes de l'Église. Je me souviens d'une expérience que j'ai eue il y a de nombreuses années, alors que j'étais évêque. Un dimanche matin, pendant la période d'ouverture de la réunion de la prêtrise, nous nous préparions à ordonner un jeune homme à l'office de prêtre. Ce jour-là, un membre du Grand Conseil, qui était aussi servant au Temple, visitait notre paroisse. Alors que je faisais les préparatifs pour que le jeune homme soit assis face à l'assemblée, afin que nous puissions procéder à l'ordination, le membre du Grand Conseil m'arrêta et me dit, « Frère Monson, je fais toujours en sorte que les frères qui vont être ordonnés le soient face au temple. » Il repositionna la chaise pour que le jeune homme soit assis face au temple. Je reconnus immédiatement une pratique non autorisée. Je vis le risque qu'elle se dépende davantage. Bien que beaucoup plus jeune que le membre du Grand Conseil, je sus ce qu'il fallait faire. Je repositionnai la chaise pour qu'elle soit de nouveau face à l'assemblée et je lui dis, « Dans notre paroisse, nous faisons face à l'assemblée. Au cours des années, nous avons dû corriger de nombreuses tentatives de modification de certains des programmes de l'Église par des dirigeants bien intentionnés. Nous avons réglé la question des bougies allumées sur la table de Sainte-Seine, avec des changements dans la durée des réunions déterminées localement, ainsi que celle de la suppression de l'école dimanche, des 3 heures de réunion dominicale, celle des méthodes pour permettre que les visites d'enseignement soient faites à des femmes rassemblées en grands groupes. La liste continue et est assez longue. Je n'essaierai pas de mentionner tous les nombreux changements, erreurs et problèmes qui peuvent survenir. La question, cependant, est que dans pratiquement la plupart des cas, si les dirigeants avaient seulement lu, compris et suivi le manuel, ces problèmes n'auraient pas eu lieu. Que vous ayez été toute votre vie membre de l'Église, ou vous que soyez un membre relativement nouveau, consultez le manuel si vous n'êtes pas sûr d'une règle ou d'une modalité. Vous pensez peut-être savoir comment traiter la situation, alors qu'en réalité, vous pouvez être sur la mauvaise voie. Il y a de la sécurité à suivre les manuels. Mes frères et sœurs, quel que soit votre appel de dirigeant actuel, les nouveaux manuels seront un trésor pour vous. Ils seront une bénédiction pour vous et pour les personnes que vous servez, si vous les lisez, les comprenez et les suivez. C'est le témoignage que je vous rends. Au nom de Jésus-Christ. Amen.